Notre Dieu et Père, merci pour ces moments que tu nous donnes encore ensemble autour de ton Fils, le Seigneur Jésus. Et nous te prions, comme nous l'avons exprimé dans le cantique, de nous guider par ton divin esprit. Et merci de ce que ton esprit habite en nous et tu peux nous aider à plus réaliser que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit et d'avoir plus l'exercice de nous faire guider par ton Saint-Esprit. Et notre Dieu et Père, merci de nous avoir donné ce consolateur et nous te prions aussi d'aider le frère ou les frères que tu vas utiliser, de les guider par ton Saint-Esprit. Et tu peux aider aussi ceux qui écoutent, d'écouter, que ta parole entre dans les oreilles, la tête, mais tout particulièrement dans les cœurs. Tu sais aussi s'il y en a encore parmi nous qui ne seraient pas encore convertis, tu peux faire qu'ils se convertissent. Notre Dieu et Père, nous te prions aussi de nous, de plus réaliser que nous sommes pèlerins, étrangers sur cette terre. Et notre Dieu et Père, nous te remettons aussi encore tous ceux qui auraient bien aimé venir et qui n'ont pas pu. Nous pensons aussi tout particulièrement à Roger qui a l'habitude de venir, mais aussi aux autres. Amen.
Amen. dans le livre du prophète Agée. Page 648. Agée chapitre 2, versets 6 et 7. Encore une fois, ce sera dans peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche, et j'ébranlerai toutes les nations. Et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. J'ébranlerai toutes les nations, et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Verset 8, la fin. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées, et dans ce lieu je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dans l'Épître aux Hébreux, nous retrouvons ces expressions dans le chapitre 12, une première expression à la fin du verset 25. Celui qui parle ainsi des cieux. Celui qui parle ainsi des cieux. Duquel la voix ébranla alors la terre, mais maintenant il a promis, disant encore une fois, je secourrai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Or, ce « encore une fois » indique le changement des choses muables comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec référence et avec crainte. Car aussi notre Dieu est un feu consumant. Nous avons chanté aussi dans ce cantique « garde-nous dans ta paix ». C'est une expression que nous employons très souvent dans nos prières, de nous garder. Nous avons besoin d'être gardés. Et nous pourrions lire un psaume qui est court, le psaume 121, dont le mot caractéristique, c'est « garder ». Il est six fois dit dans le psaume 121, ce mot « garder », c'est le mot clé du psaume. Psaume 121, cantique des degrés. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et à toujours. Encore un verset dans le psaume 16. Je crois qu'on l'a évoqué dimanche dernier. Psaume 16, verset 8. Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite. Je ne serai pas ébranlé. Nous vivons des jours où manifestement les nations sont ébranlées. La terre est ébranlée. La pandémie qui touche pratiquement le monde entier, la terre tout entière, ébranle les hommes, ébranle les femmes. C'est une source d'inquiétude. Et dans le livre d'Agé, nous voyons que l'Éternel annonce au chapitre 2, au verset 7, « J'ébranlerai toutes les nations. » « J'ébranlerai les cieux et la terre, et j'ébranlerai toutes les nations. » Et immédiatement après, il nous est dit, et l'objet du désir de toutes les nations viendra. Prophétiquement, bien sûr, il s'agit du Messie pour le peuple d'Israël. Mais en ce qui nous concerne, nous pouvons faire une application à l'Église, et l'objet du désir de nos cœurs n'est-il pas Jésus-Christ, le retour du Seigneur pour venir chercher son Église? Et la parole de Dieu fait le lien clairement entre le fait que la terre est ébranlée, que les nations sont ébranlées, et la venue de Christ ici, bien sûr le Messie pour Israël. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, il y a cette expression que nous avons lue à la fin du verset 25 du chapitre 12, donc, celui qui parle ainsi des cieux. Et légitimement, nous pouvons nous poser la question, comme croyants, est-ce que, quand la terre est ébranlée, quand les nations sont ébranlées par cette pandémie, eh bien, la terre est secouée, et la parole de Dieu nous dit que Dieu parle ainsi des cieux. Ainsi, celui qui parle des cieux. Il parle à tous les hommes, il nous parle aussi en tant qu'enfants de Dieu. Il parle à l'Église tout entière. Mon Église, es-tu prête ? Et nous avons besoin de comprendre que il y a des moments où Dieu avertit, Dieu parle à travers des événements extraordinaires, inattendus. L'homme pense toujours tout contrôler. Nous pensons aussi peut-être nous reposer sur les progrès de la médecine, les progrès scientifiques de tous ordres, pour être gardés de ces ébranlements de la terre. Alors, dans le psaume 121 que nous avons lu, il y a des instructions en ce qui nous concerne. Le psaume 121 nous présente les expériences d'un croyant, on a dit d'un homme fidèle, d'un homme pieux, qui trouve dans le Seigneur, en Dieu, son secours et sa ressource. Et dans ce psaume, le Saint-Esprit développe toutes les bénédictions de celui qui demande le secours du Seigneur. Et nous pourrons peut-être les considérer. Il y a 7 bénédictions, 7 certitudes pour celui qui s'attend à l'Éternel, celui qui s'attend à Dieu et qui attend le secours de l'Éternel, de Dieu qui est dans les cieux. Alors, dans ce psaume, vous pensez que celui qui a écrit ce psaume, David en l'occurrence, a dû apprendre, comme nous-mêmes, beaucoup de leçons. Les leçons qu'un chrétien peut attendre dans ce monde et en lui-même, c'est que en nous, nous n'avons aucune force, aucune puissance pour faire face à toutes les circonstances de la vie, à faire face aux circonstances qui sont les nôtres actuellement avec cette épidémie, que notre sagesse est vaine et que cette leçon est nécessaire, que nous devons perdre notre confiance en nous-mêmes. Parce que la confiance en nous-mêmes, c'est la source de notre faiblesse. On parle souvent, et on a eu l'occasion d'en parler, de notre faiblesse. Mais la source de la faiblesse, c'est quand on regarde à nous-mêmes. Quand on regarde à Dieu, quand on regarde au Seigneur, là nous puisons la force pour traverser les circonstances. Et alors le psalmiste se rend compte donc sans doute à travers des expériences qu'il a besoin de secours et d'assistance. Il n'a pas pu en trouver en lui-même. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il exprime dans son psaume? J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours? Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Attendre le secours de l'Éternel seul. C'est la grande leçon de toute notre vie. Pour les plus jeunes, et avec les expériences passées, aucune force, aucune puissance en nous-mêmes, ne pas avoir confiance en ses propres forces, notre sagesse est vaine, mais nous devons élever les yeux vers les montagnes d'où vient le secours. Et alors, le psalmiste, il dit, c'est mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel. Et en rapport avec ce que nous avons lu dans le livre d'Agée et dans l'Épître aux Hébreux sur l'ébranlement de la terre qui est secouée, nous lisons au verset 3 « Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. » Nous pouvons faire l'expérience et apprendre par cette expérience que nous serons gardés au milieu de tous les dangers en nous tournant vers le Seigneur seul pour avoir du secours. D'où vient mon secours ? Le secours vient de l'Éternel. Dans les Proverbes au chapitre 3, versets 25 et 26. Ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants quand elle surviendra, car l'Éternel sera ta confiance et il gardera ton pied d'être pris. Bien sûr, une épidémie avec des conséquences fâcheuses, eh bien, celui qui a écrit les proverbes, il peut dire « Ne crains pas la frayeur subite, ni la ruine des méchants, car l'Éternel sera ta confiance et il gardera ton pied d'être pris. » Ne pas être grand, le pied, il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Et ici, il nous est dit, et il gardera ton pied d'être pris. Est-ce que l'Éternel, est-ce que Dieu est notre confiance ? C'est ça la piété. Crainte de Dieu et confiance en Dieu. Car l'Éternel sera ta confiance et il gardera ton pied d'être pris. Ne crains pas la frayeur subite. Dans un autre psaume, c'est 73, verset 2, c'est un psaume bien connu, psaume d'Azaph. Et pour moi, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne m'aient manqué d'un rien, que mes pas n'aient glissé. En traversant la terre, nous sommes toujours en danger. Un danger que nos pas soient ébranlés, que si nous avons trop confiance en nous-mêmes, le danger, c'est que nos pas glissent. Dans 1 Samuel 2, je crois que il nous a parlé aussi des pas. 1 Samuel 2, verset 9. Toujours l'Éternel, il garde les pieds de ses saints et les méchants se taisent dans les ténèbres, et car l'homme ne prévaut pas par sa force. Garde-nous dans ta paix, être gardé que nos pieds glissent, être gardé que les pieds de ses saints il ne permettra point que ton pied, psaume 121 de nouveau, il ne permettra point que ton pied ne soit ébranlé. Et alors, celui qui te garde ne sommeillera point. C'est-à-dire que les soins du Seigneur, ils ne cessent pas. Qu'il est toujours disponible à la fois. Au milieu des orages de la vie, au milieu des difficultés, qui peuvent sembler des montagnes, dans le premier verset, les montagnes, ce sont des circonstances tellement difficiles que nous trouvons sur cette terre, que vont nous dire, mais c'est impossible que de traverser de telles difficultés sans... Eh bien, dans la tranquillité du psalmiste ici, c'est que celui qui le garde, celui qui te garde, ne sommeillera point. On a dit que dans le psaume 16, un ami qui se tient à notre main droite. C'est une expression que nous trouvons souvent dans l'Ancien Testament. Ça veut dire un ami qui est proche. L'expression « le Seigneur est proche », celui qui se tient à notre main droite, eh bien c'est quelqu'un qui est proche, qui est près de nous. Et l'Éternel est près de nous. Le Seigneur est près de nous. Et il est toujours disponible à la fois. Il ne sommeillera pas, cela veut dire qu'il est toujours disponible. Nous passons par le sommeil, la nuit bien sûr, le jour nous sommes réveillés, mais nous voyons que celui qui nous garde, celui qui te garde, eh bien, il ne sommeillera pas. Et ses soins ne cessent pas. L'Éternel est au nombre et à ta main droite. Il est toujours plein de grâce pour notre faiblesse. Et miséricordieux pour tous nos besoins. On va relire encore dans ce psaume 16. David s'était toujours proposé l'Éternel devant lui. Le désir de David, c'était de glorifier son Dieu, de le suivre, proche. Et nous voyons dans ce psaume 16 toujours ce terme de garder. Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. Et l'expérience de David au verset 8, c'est « Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlée. Les sept certitudes du psaume 121, la première c'est « L'Éternel ne permettra pas que notre pied soit ébranlé, il nous préservera de tout danger. » La deuxième certitude de l'homme pieux, de l'homme fidèle, du croyant, eh bien, c'est d'avoir la certitude, l'assurance des soins permanents de Dieu. La troisième certitude, c'est l'Éternel nous garde, non seulement d'une manière générale, hein, il nous garde, mais il nous garde moment après moment, instant après instant. Il ne sommeille pas et il ne sommeillera pas. Il est toujours, donc, à notre droite, accessible à la fois. On a dit que la quatrième certitude, c'est que il nous garde en tout temps, quelles que soient les circonstances que nous traversons, c'est-à-dire peut-être des moments heureux ou des moments difficiles, il nous garde en tout temps. Il n'y a pas un moment, une circonstance dans laquelle il ne nous gardera pas. La cinquième certitude de l'homme pieux, de l'homme fidèle, eh bien, c'est qu'il nous garde de tout mal. Savons que le péché nous environne et que nous n'avons pas toujours conscience du mal qui nous entoure, et nous discernons très souvent très mal le mal qui est présent, pouvons relire peut-être cette expression de l'épître aux Hébreux. Chapitre 12, toujours. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si aisément. La réponse du psalmiste, eh bien, c'est que l'Éternel nous garde de tout mal. Même si nous ne discernons qu'une partie de ce mal, eh bien, l'affirmation du psalmiste, c'est « il nous garde de tout mal ». La sixième certitude dans ce psaume 121, c'est que « il garde l'âme, il garde l'esprit et il garde aussi le corps ». Il nous garde en son entier. En entier. Ce sont des précieuses certitudes de savoir justement que si nous nous confions en l'Éternel, si nous tournons et élevons les yeux vers le ciel, vers Dieu, vers le Seigneur, eh bien les réponses sont évidentes. Nous avons toutes ces certitudes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. La dernière certitude, c'est il nous garde dans toutes les circonstances de la vie. Notre sortie et notre entrée à toujours. Quand nous entrons dans, disons, la pensée de la sortie et de l'entrée, on trouve cette expression dans plusieurs endroits, en particulier dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. On peut dire que notre entrée dans le monde jusqu'au moment où nous quittons ce monde, et bien l'Éternel garde notre sortie et notre entrée. Pour l'entrée, on a dit aussi que c'est jouir de la présence de Dieu. C'est de goûter une communion intime et étroite avec lui. Et donc ça, c'est quelque chose que nous avons à rechercher et entrer dans sa présence avant justement peut-être d'aller dans ce monde pour quelques expériences. Il nous garde dans toutes les circonstances de la vie, notre sortie et notre entrée. Et la dernière expression de ce psaume, c'est « à toujours ». À toujours. Six fois, l'Éternel nous garde, que notre pied ne soit pas ébranlé. Il est toujours à notre droite, toujours accessible à la fois. Que de certitude nous avons en nous confiant à un tel Dieu.
Les encouragements de la parole à regarder, à nous appuyer sur le Seigneur sont nombreux et pourtant les inquiétudes peuvent trouver une place dans nos cœurs si facilement. Et je pense à deux passages, d'abord dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 6, où le Seigneur encourage ceux à qui il parle, ses disciples, les foules qui sont là avec. On leur dit au verset 25, « Ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement ?» Et la suite du passage, le Seigneur passe en revue différents aspects. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils disent des champs plus loin. Et on a par exemple à la fin du verset 30, non, c'est un peu plus loin. Oui, on peut lire au verset 31, « Ne soyez donc pas en souci, disant que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car les nations recherchent toutes ces choses. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce passage évoque des choses qui sont, si on peut dire, du quotidien normal. La nourriture, le vêtement, ces choses-là qui sont, si on peut dire, les nécessités de notre vie. Dieu sait tout cela. Et pourtant, si facilement nous nous inquiétons. En même temps, pour nous qui ne manquons de rien, c'est un peu facile de parler de ces choses-là. Bien des croyants n'ont pas la nourriture, n'ont pas le vêtement, et ces choses sont des réalités d'aujourd'hui. Que mangerons-nous demain? Mais en rapport avec ce que Michel a évoqué, des circonstances actuelles, je pense à un autre passage, en Jérémie 10. On a une petite expression, on va lire le premier paragraphe. Et dans ce paragraphe, il y a une petite expression qui nous parle, et qui peut nous parler en rapport à un aspect des circonstances actuelles. Jérémie 10, verset 1er, « Écoutez la parole que l'Éternel vous dit, maison d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, n'apprenez pas le chemin des nations, et ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s'en effrayent. Car les statues des peuples sont vanité, car c'est un bois coupé de la forêt, façonné au ciseau par la main d'un artisan. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fait tenir avec des clous et des marteaux, afin qu'il ne bouge pas. Ils sont comme une colonne faite autour, ils ne parlent pas, on les porte car ils ne marchent pas. Ne les craignez pas, car ils ne peuvent pas faire du mal, et aussi, il n'est pas en leur pouvoir de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand en force. Qui ne te craindrait, roi des nations? Car cela t'est dû. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est comme toi. Mais jusqu'au dernier, ils sont stupides et fous. L'enseignement des vanités est du bois. L'argent en plaque est apporté de Tarsis et l'or du phase, ouvrage de l'artisan et des mains du fondeur. Le bleu et la pourpre sont leurs vêtements et sont tous ouvrages de gens de l'art. Mais l'Éternel Dieu est véritable. Lui est le Dieu vivant et le roi d'éternité. Devant son courroux, la terre est ébranlée et les nations ne peuvent soutenir son indignation. On a cette idée de l'ébranlement là. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 2? Je vais d'abord m'arrêter juste au verset 3. Les statues des peuples sont vanité. Une phrase qui est un peu bizarre, les statues. C'est le même mot qui est utilisé dans le livre de Moïse pour parler de la loi, qu'on retrouve dans le psaume 119 par exemple aussi. C'est les fondements, ce qui sert de base sociale, si je peux dire comme ça. Il s'agit des nations. Les bases sociales des nations, c'est quoi? Elles sont vanité. Le terme de vanité dans la parole, est très dans l'Ancien Testament, est très souvent utilisé comme synonyme des idoles. Et la suite, c'est la description des idoles. Alors bien sûr, les idoles qui nous sont décrites là, c'est celles qu'on voit dans nos livres d'histoire à l'école, des statues de ceci, des statues de cela, plus ou moins richement décorées, avec les matériaux là sont passés en revue, l'artisan, l'artiste qui fait des belles idoles, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils ne parlent pas. Verset 5, on les porte car ils ne marchent pas. C'est de la matière inerte. Les idoles de ce monde, c'est quoi? C'est plein d'autres choses. C'est cette foi dans la technologie qu'il y a aujourd'hui autour de nous. Regardez, je pensais en lisant ce passage, au mouvement de foule qu'il y a quand un fabricant sort un nouveau smartphone. Il faut être le premier à l'acheter. On fait la queue pendant des heures dans la rue pour être parmi ceux qui auront les premiers exemplaires de ce nouveau prodige de la technologie. Voilà ces idoles qui sont vanité. Qu'est-ce qu'elles font? Rien. Rien. Il suffit d'une bêtise pour que cet objet qui a coûté cher, où il y a plein de travail dedans, si on peut dire, ben, il ne marche plus. Il est bon pour la poubelle, on ne sait même pas quoi en faire dans la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit, verset 2? N'apprenez pas le chemin des nations. N'apprenez pas le chemin des nations. C'est solennel. Qu'est-ce que nous apprenons de notre vie de tous les jours? Je m'adresse aux enfants, vos professeurs n'aimeraient pas m'entendre dire ça, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? On vous apprend le chemin des nations. On vous apprend les pensées du monde. Même petit, on peut avoir ce regard critique sur ce qu'on nous apprend. Où est Dieu dans tout ça? Quelle place y a-t-il pour Dieu dans tout ça? N'apprenez pas le chemin des nations, ne soyez pas effrayés des signes des cieux. Je ne dirai pas que ce Covid est un signe des cieux, Dieu parle certainement. Mais en tout cas, le monde s'en effraye. Ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s'en effrayent. Est-ce que nous nous laisserons effrayer comme les nations? Ou est-ce que nous avons confiance dans celui qui nous garde? Et que nous regardons que à celui qui nous garde. Qu'est-ce qui domine dans nos cœurs? Une inquiétude de ceux qui n'ont pas d'espérance, comme ceux qui n'ont pas d'espérance? Ou une confiance en celui qui nous garde? Bien sûr, celui qui n'a pas d'espérance, il voit là dans ces signes des cieux, dans ce qui se passe, un risque qu'arrive d'une manière inopinée ce qui arrivera de toute façon, la mort. Mais d'une manière à laquelle on n'est pas habitué. Ça surprend et du coup, ça fait peur. On perd le contrôle de ce qu'on croit contrôler. En fait, on ne contrôle rien du tout. Alors, ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s'en effrayent. Plus loin, ne les craignez pas, car ils ne peuvent pas faire du mal. Ne les craignez pas, ces idoles du monde, tout ce qu'on nous agite autour de nous. Pourquoi, verset 6, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand en force. Car qui ne te craindrait, roi des nations ? Car cela t'est dû, oui, roi des nations. Dieu est roi sur les nations. Dieu est celui qui commande à toutes choses. Il a autorité même sur les nations qui ne veulent pas de lui. Cela t'est dû, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est comme toi. Toute la sagesse de l'homme est vaine devant la grandeur du grand Dieu des cieux. Nebuchadnezzar a dû l'apprendre. Il a dû l'apprendre par des leçons rudes. Et il a appris. On peut peut-être juste relire ces derniers versets de Daniel quand Nebuchadnezzar reconnaît la grandeur de l'Éternel. Chapitre 4 de Daniel. On peut lire à partir du verset 34. « À la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, j'ai élevé mes yeux vers les cieux et mon intelligence me revint. Et je bénis le Très-Haut et je louai et magnifiai celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle, dont le royaume est de génération en génération, et tous les habitants de la terre sont réputés comme néant. Et il agit selon son bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu ?» Dans ce temps-là, mon intelligence me revint, et pour la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me revinrent, et mes conseillers et mes grands me cherchèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je magnifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérité et les voies jugement, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » C'est solennel de voir comment Dieu a dû parler à Nebuchadnezzar pour l'amener à confesser son orgueil, l'orgueil de l'homme. Alors, pour en revenir à ce que on disait dans Jérémie, cette crainte que nous pouvons voir, sentir autour de nous, est-ce que nous la laissons envahir nos pensées? Ou est-ce que nous faisons nôtre ces assurances? Ce n'est pas juste des promesses, c'est beaucoup plus fort que des promesses que nous présente ce psaume 121. C'est des certitudes, c'est des faits. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel te gardera. Dès maintenant à toujours. Ta sortie, ton entrée, dès maintenant à toujours.
81, 32. les versets 3 et 4 du 146. 146, 3 et 4. Et...